Fiola, good evening Amuse-Gueule. Bienvenue, une émission ce soir placée sous le signe de la lassitude, de la déconvenue et du semi-vide. Une belle soirée ici à Auckland, des couleurs claires et à la fois claires.
Ouais.
Et vivide et légèrement passé, c'est celle du soir qui tombe comme une feuille morte qui prendrait des années avant de toucher terre. Une émission tout de même fantabuleuse puisque Yvan est à la technique. Bonsoir Yvan.
Bonsoir.
Nous serons rejoints un peu plus tard par Els qui nous a fait un coup de touriste, je dois dire. Je sais pas qu'en 2017 on pouvait encore rater l'heure d'hiver.
Bah si. Hein.
L'heure d'été.
La preuve. Hein.
La preuve. Toujours est-il qu'elle arrivera avec une heure de retard à peu près, donc après l'émission. Et avec une amie à elle, enfin espérant qu'elle se radine un peu plus tôt, Séverine, professeure des écoles, je sais pas comment on dit exactement ici. On commence en musique tout de suite, on écoute la Mano Negra, Madhouse.
And rats, a house without a window, the darkness living inside. And you come near your baby, you turn on the lights. Don't you so you come near your baby, and you turn on the lights. You summon and make you cry, you blow the lights and hide. My heart is like a big ass, full of ghosts and rats. Don't you
de leur premier album, c'est ça?
Je crois bien, moins que ce soit du deuxième, en tout cas c'était en pleine heure de gloire encore.
Bah oui, Manu Chao et la Mano Negra.
Et la Mano Negra, hein? Oui, ils sont français, internationaux.
Musique estivale.
Oui, hein? musique de festival estival.
Bah ouais, hein.
Évaporer les fils, hein, sont toujours pas là. Il faut absolument que je fasse un sort à ce câble qui transforme tous mes CD en vieux vinyle. T'as entendu le crépitement?
Bah ouais, c'est pas très grave. Hein.
On se croirait
on a même des cassettes à la radio.
C'est vrai.
Des cassettes. On se croirait dans les années 80, 90, tu vois.
C'était pas bien les cassettes.
Mais ce qui est rigolo, c'est que les nouveaux groupes, moi j'ai rencontré des petits jeunes d'Auckland. Les nouveaux groupes d'Auckland, ils sortent leur musique sur cassette.
Sur cassette?
Sur cassette.
Oh.
Parce que les vinyles, c'est super cher à produire.
Mm-hmm.
Et, les
oui, c'est un coût de production bien plus élevé que...
Ouais.
Que le CD, ce qui est très rigolo, enfin, on mobilise souvent cet argument contre les maisons de production qui ont souffert de Napster, du MP3, mais enfin, tout de même, le coût de production du CD était bien inférieur à celui du vinyle, en même temps qu'ils avaient augmenté les prix de 2 ou 3 fois, donc au début des, c'était quand, au début des années 90, les premiers CD?
Premier CD, c'est ça, dans les débuts des années 90, hein, je me rappelle. Mais le vinyle est quand même plus joli, hein. Et c'est un meilleur son que le CD.
En quoi c'est un meilleur son pour toi?
Bah, l'objet, l'aiguille sur le vinyle.
Parce qu'il y a tout de même ce grésillement, ces petites poussières qui font parler d'elle.
Bah ouais, c'est ça qui fait le charme du vinyle, je pense.
Mais le son en lui-même, le rendu de la musique est peut-être plus cristallin, moi.
Je pense pour avoir l'équivalent, il faudrait. Le CD s'en approche, mais c'est numérisé, quoi. Après, je suis pas un expert non plus, mais.
C'est mis en bits, en 0, ouais. 1, 2, 1, 2.
Ouais, voilà. Donc les vinyles sont chers maintenant. Ça vaut quand même 40-50 $. Hein, sur
ouch. Pour une nouvelle.
Pour une réédition.
Une réédition, même pas un nouvel album.
Voilà. Réédition de l'album de Sheila, par exemple.
Hein? Donc c'est curieux. Donc c'est devenu un album. Un objet de luxe.
C'est devenu un objet de collection et puis certains vinyles atteignent des prix assez élevés.
Tu parles d'originaux.
Oh, les originaux sont encore plus chers. Hein. Ça dépend quel groupe, mais ça dépend quel disque. Sûrement sur les Beatles, sur les Stones. Sur les vieux blues, peut-être les...
J'ai une petite maison où j'aurais peu de place pour installer une platine, mais j'aimerais bien avoir ça.
C'est sympa, l'objet vinyle à encadrer sur... à mettre au mur. Il y a quelques cafés qui ont fait ça. À Montidon, il y en a un, et ils ont mis des vinyles au mur. C'est assez joli, hein, ça rend bien, quoi.
Ouais, ça fait comme une sorte de disque empaillé.
Bah oui. Mais c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui écoutent encore du vinyle. Hein.
Et puis on en trouve d'occasion et à pas cher, je pense à ce magasin qu'un ou deux Queen Street là.
À Real Groovy, ouais, c'est vrai qu'on peut trouver des. C'est pas donné quand même. Hein, on peut tomber sur des bonnes occasions, mais en général, le personnel qui travaille là-bas. Ils connaissent leur business et les bons vinyles coûtent cher, quoi. Par contre, quand tu les emmènes, là, ils donnent rien du tout, quoi.
C'est-à-dire?
Enfin, pas grand-chose, quoi. Bon, je sais pas, si tu amènes un bon vinyle, peut-être ils vont te donner 2 $ et le revendre à 50, tu vois.
Oui.
Hein? Ouais. C'est un peu l'idée, quoi.
Ou l'idée, c'est comme ce que je pratique dans les librairies d'occasion, c'est que tu ne vends pas tes livres pour du cash, tu les vends pour du crédit.
Ouais.
À 2 fois plus. Donc tu auras, au lieu de 2 $, tu auras 4 $ à dépenser sur leur stock. Voilà. Histoire de se mettre en bouche, de se dégourdir la mâchoire, on va écouter. Bon, je ne sais pas.
Sheila.
Non, on va écouter Michel Legrand. Tiens, vas-y, je t'ai eu.
Voilà.
Les moulins de mon cœur.
Lance.
Dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles. Comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Chevaux de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit. Mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts. Comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie. Comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus. Et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau. Et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Voilà, alors. J'espère que vous êtes bien endormi. Hein. Qu'est-ce que nous a fait
Non, c'est bien Michel Legrand. Moi, j'ai toujours aimé ses mélodies.
Une journée spéciale déprime aujourd'hui en Nouvelle-Zélande.
Pas du tout. Alors, les filles un peu évaporées se croyaient encore en hiver, mais les filles, c'est le printemps. J'avais hâte que vous soyez là pour beaucoup de raisons, dont celle-ci, j'ai eu une sorte d'aperçu qui était. Comme il arrive à la lecture d'un roman qui l'ouvre, qu'il dévoile un pan de réalité qu'on devinait, qu'on savait obscurément, mais sur lequel on n'avait jamais mis de mots. Et les mots mis sur cette réalité-là furent brefs et flagrants. C'est dans un livre de Nicolas Fargue qu'on avait invité ici, enfin qu'on avait interviewé à la radio, où il disait que la gentillesse n'a aucun effet sur le désir que l'on peut produire chez une femme.
Alors on a elle, c'est et la collègue Séverine qui est arrivée.
Séverine qui veut nous parler un peu de son expérience dans une école néo-zélandaise. Qu'est-ce que t'en penses, Séverine, sur la gentillesse qui a aucun
Laisse-moi préciser. Alors j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que la gentillesse est une vertu essentielle, peut-être la plus haute d'entre elles, qu'elle facilite à l'évidence les rapports, mais elle n'est pas un ingrédient dans ce qui peut attirer chez un homme.
Je suis pas sûre. C'est une des qualités qui dure dans le temps. Peut-être une des seules. Quand on est gentil,
non.
C'est pas seul qui va provoquer l'étincelle.
Il y a 10 ans et même qu'il y a 5 ans, donc l'année dernière.
Non, mais ça fait partie quand même du parfait gentleman. Mais effectivement, c'est pas ça qui va faire basculer le cœur d'une femme. C'est pas le seul. C'est une petite chose.
Ça ne te rend pas toute chose, un homme gentil.
Non. Mais j'y suis sensible. Donc si déjà tu touches le cœur d'une femme comme ça, après il faut montrer d'autres choses.
C'est ce qu'il dit, c'est qu'on le touche. On le touche à rien en étant gentil.
On le touche à. Je parle de sa propre expérience.
Un homme qui est gentil avec toi ne va pas te tripoter le cœur, tu vois.
Ça dépend si physiquement il me plaît, intellectuellement il y a des affinités. C'est effectivement. Et en plus, il y a cette gentillesse.
On parle de gentillesse pure.
Non. C'est pas le seul. C'est pas la gentillesse uniquement qui va faire que tu es profondément amoureux. Mais je pense que c'est la même chose pour vous, les hommes. Une femme gentille, c'est pas. ça qui va vous faire vaciller.
Je suis d'accord. Non, moi, j'aime un peu de... J'ai payé mon écho, mes $2, mais j'aime un peu de bitchiness, sans quoi je m'ennuie.
Tu veux dire un petit peu de challenge?
Non, ça, c'est un mot horrible. On n'est pas dans une école de marketing.
Ici. Bon, alors, quelqu'un qui...
Une emmerdeuse.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça, ouais.
Bah, alors, Séverine, tu te présentes, tu... T'es enseignante à Auckland?
Non, alors je suis pas enseignante. Je suis arrivée à Auckland il y a presque 5 ans et j'ai travaillé tout de suite à l'école de Freeman's Bay et je m'occupe des inscriptions et de tout ce qui est administratif dans l'école.
Cool.
Séverine, vous avez un petit accent étranger, d'où venez-vous?
De Toulon.
Ah voilà, Toulon. Pas de Paris, c'est ça?
Non, je viens pas de Paris.
Alors Toulon. Qui s'est fait battre par Montpellier la semaine dernière en rugby.
Ah, en rugby, oui.
C'était hier.
Mm. Ah, il faut le noter quand même. C'est pratiquement de 20 points. Hein. Ouais, pas de beaucoup.
C'est possible.
Ah non, mais c'est même pas possible, c'est sûr. C'est sûr.
Ce qui nous éloigne radicalement de notre sujet, Yvan.
Ben voilà.
Bah alors, mais avant de venir ici, est-ce que tu étais déjà dans le domaine des écoles en France ou tu faisais tout à fait autre chose?
Pas du tout, non. Avant ça, j'étais à Londres et je travaillais pour une boîte qui vendait des vêtements de maternité en ligne. Donc, rien à voir.
Et là, vous avez fait un bond en avant. Vous êtes passé dans la classe d'âge des 5 ans.
Ah ben oui, mais c'est quand même beaucoup mieux. La qualité de travail est plutôt pas mal. J'ai tous mes week-ends, toutes mes soirées et toutes les vacances scolaires. Donc, du coup, ça me permet de rentrer en France, de faire des choses avec ma petite fille de 5 ans. Et non, c'est plutôt pas mal.
Et un bon équilibre entre la vie famille et la vie de
ça travail. Permet d'avoir une bonne qualité de vie, oui.
Et alors, qu'est-ce que tu penses de la différence entre la vie à Londres et la vie à Auckland?
Alors, attends, j'aimerais, on n'est pas dans une radio communautaire. Ici, on se vouvoie, déjà.
Oh, on va se vouvoyer.
Merci.
Tu me vouvoies, j'espère. Alors, Séverine.
La différence,
dites-nous la différence.
Séverine, que pensez-vous de la qualité de l'ennui en Nouvelle-Zélande?
La qualité de l'ennui.
Par rapport à celle de Londres?
Je sais pas, on n'a pas le temps de s'ennuyer vraiment quand on a des enfants.
C'est vrai que ça va.
Quand ils sont petits, effectivement, 5 ans, je peux reconnaître que.
Ouais, ça, à 5 ans, ils sont déjà bien dressés, à 5 ans.
Mais est-ce que la vie est plus chère à Londres qu'à Auckland ou...
Non, je pense pas, non.
Non,
non.
C'est cher Auckland.
Mais pas dans tous les sens.
Ah, mais si, il faut que ça parte dans tous les sens aujourd'hui. C'est la journée des primes.
Ça sort par la fenêtre, ça revient par la porte, c'est grand n'importe quoi.
Bon, alors, si on recadre le sujet sur l'école en Nouvelle-Zélande et l'expérience, est-ce qu'il y a des choses étonnantes? Donc je vais te vous voyez.
Oui.
Donc je vais faire plaisir. Est-ce qu'il y a des choses étonnantes qui sont arrivées et qui ne seraient jamais arrivées en France ou dans le cadre scolaire, dans le système scolaire, est-ce qu'il y a des choses qui
Oui, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Ça m'a pris quand même pas mal de temps à m'y habituer. La première fois quand j'ai eu mon poste à l'école de Freeman's Bay. Et que la principale de l'école, elle m'a fait visiter les classes. Ça ressemble pas du tout au système éducatif français tel que je l'ai vécu moi dans mes années de primaire. Il y a pas de chaises, il y a pas de bureau où chacun est assis à sa table, tout le monde tourné vers le tableau à écouter l'enseignant. Non, c'est pas du tout. Il y a des, je sais pas comment on dit en français, des beanbags. Il y a les enfants sont assis par terre. Ouais, voilà, des poufs. Les enfants sont assis par terre. Ils travaillent avec des tables de travail. Donc, où ils font, disons qu'il y a plusieurs ateliers dans chaque classe. Ça ressemble un peu au centre aéré. Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils apprennent, les enfants, dans un environnement comme ça? Et maintenant que ça fait bientôt 5 ans, je me rends compte que l'enseignement, il est basé vraiment sur un tout autre système.
Et je crois que la Nouvelle-Zélande réussit bien dans les classements internationaux dans cette classe d'âge.
Oui, c'est je crois que c'est un des systèmes éducatifs les meilleurs au monde. Ouais. Je crois.
Et alors qu'est-ce qui fait que ça marche mieux? Les enfants sont plus à l'écoute?
Ben En fait, enfin, pour l'expérience que j'en ai avec ma fille, elle sait déjà lire. Elle sait déjà lire alors qu'elle a commencé l'école il y a même pas un an. Et en fait, j'ai l'impression que l'enseignement est basé sur la, je sais pas comment dire, c'est pas l'enseignant qui fait la leçon et les élèves qui écoutent, c'est sur le raisonnement de l'enfant qui va en fait
plus libre.
Ils vont lui donner les outils pour qu'elle puisse faire son raisonnement toute seule et apprendre et à utiliser les connaissances qu'elle a déjà acquises.
Donc une plus grande liberté dans la reconnaissance. On est libre de s'asseoir où on veut, on est libre de.
Voilà, c'est.
Cela est-il rendu possible par la taille des classes? Quelle est la différence entre une classe française et néo-zélandaise en moyenne?
Je pense qu'au niveau de la taille de la classe, c'est la même chose. C'est juste la façon dont. Disons que c'est un peu compliqué. Et puis, vu que je ne suis pas enseignante, j'ai pas vraiment le regard sur comment ça se passe exactement dans la classe. Mais
attends, excusez-moi, vous avez été invitée ici en tant qu'enseignante, donc c'est une imposture. Donc vous n'enseignez pas.
Non.
Vous êtes donc, je sais pas, bouchère.
Non.
Quelle est l'imposture?
Je pense que l'équivalent.
Enlevons les masques.
Travaille dans la
secrétaire administrative.
Ah, oh, ok, oui, ok.
Donc, donc elle est quand même au cœur du système en ce sens où elle. Où elle gère toute l'organisation.
Elle est le système.
Freeman's Bay, c'est une école bilingue?
Non, pas du tout. Oh. Non, c'est juste, on a juste une école, une unité maori.
Ok.
Mais rien à voir avec le français, non.
C'est déjà ça, enfin une unité maori.
Ah oui.
Ouais.
Mais.
J'ai une amie, Leslie, qui après 3 ans en France, elle avait vécu ici 5 ans, elle est repartie en France. Elle veut revenir parce que elle a l'impression que la qualité de l'enseignement ici-bas est meilleure que là-bas. A-t-elle raison?
Je pense que oui, et j'en ai parlé avec une copine à moi elle est enseignante dans un collège, elle est enseignante de français, et donc on discutait un petit peu justement la dernière fois qu'on s'est vu quand je suis rentrée en France du système scolaire, et en fait elle m'expliquait que c'est la galère en France parce que elle enseigne à une classe, un niveau, et tous les élèves sont censés tout comprendre en même temps, au même moment, pour qu'elle puisse passer à la leçon suivante. Alors que en Nouvelle-Zélande, il y a des groupes de niveau, en fait, à l'intérieur de chaque classe, où les enseignants, en fait, ils sont obligés d'évaluer le niveau des élèves, et en fonction de leur niveau, ils font des groupes de travail, et pour mettre les enfants par niveau. Donc, c'est-à-dire que il y a un groupe qui va vraiment tout comprendre à la leçon très rapidement, et donc l'enseignant va pouvoir avancer plus rapidement avec ce groupe-là, et pour la même leçon, un autre groupe va peut-être avoir un petit peu plus de mal à assimiler, donc du coup il va être dans un groupe où l'enseignant va peut-être passer un petit peu plus de temps, où on va adopter une nouvelle technique pour que la leçon soit assimilée. Donc c'est-à-dire que tout le monde apprend la même chose en même temps, mais pas au même...
À son rythme.
Voilà, à son rythme. Et c'est-à-dire que tout le monde passe à la leçon supérieure quand tout le monde a acquis.
On a le même principe à Wishmonwood et ça fait penser au système en place dans les petits villages où il y a 15 élèves dans la même classe avec une
maison dans la prairie. Non, c'est vrai. Et c'est peut-être ça la force du système, c'est que effectivement l'enseignant n'est pas prisonnière d'un niveau commun, et les élèves peuvent évoluer à leur rythme sans être stressés, parce que les meilleurs peuvent être stressés parce que ça va pas vite, les plus
moi je sais que mes gamins entre la France et la Nouvelle-Zélande, ils préfèrent largement la Nouvelle-Zélande, l'école en Nouvelle-Zélande,
hein, parce qu'ils peuvent marcher pieds nus,
c'est relax, et puis ça finit à 3 heures, hein. En France, ça finit à 5 heures.
Ouais, mais après, pour les parents qui travaillent, c'est... Bon, après, il y a d'autres...
solutions périscolaires comme en France.
En France, on fait plus par rapport aux parents qui travaillent que pour les gamins, quoi. Et c'est très élitiste, je pense, la France. Hein, les...
Bah, oui, la France, apparemment, enfin, c'est ce qu'on lit, reproduit les...
À l'école, oui, s'occupe des gamins qui suivent bien. Et...
Reproduit les inégalités sociales.
Bah après, il faut voir au niveau du collège, parce que moi, je sais qu'en France, on est quand même jusqu'au bout, on a quand même une année de philo, on a eu quand même des... L'histoire géo, c'était jusqu'au bout aussi. Et de savoir qu'on peut, ici, enfin, je sais qu'aux Pays-Bas, on peut lâcher des matières aussi importantes que l'histoire
ou les maths.
Là, je me pose des questions. Alors, je suis pas encore à ce niveau-là. Mes enfants sont encore petits, mais c'est vrai que, à ce niveau-là, en France, on a peut-être une culture générale qui.
Mais est-ce que les maths, c'est une matière importante?
Ouais. 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 J'étais d'accord avec
toi. Je pense que c'est important.
J'étais d'accord avec toi jusqu'à complètement penser le contraire. J'ai fait 11 ans d'allemand sans en parler un seul mot aujourd'hui. J'ai fait 7 ans de latin, j'ai tout oublié. Ouais. Quelle importance.
Non, je pense plutôt donc à l'histoire pour comprendre un peu les relations internationales, comprendre un peu d'où on vient et pourquoi est-ce qu'on en est là. Et la philo, pour moi, ça a été j'ai eu la chance d'avoir un super prof, mais aussi pour le raisonnement, pour avoir des manière de raisonner qu'on n'aura plus après.
Moi, je suis d'accord avec toi, la philo, j'ai bien aimé moi en terminale. J'en avais pas fait beaucoup, mais j'ai un bon souvenir de la philo. Quoi. Je trouve que ça ouvre l'esprit.
Ouais. C'est un révélateur. C'est... En même temps, penser en philosophe à cet âge-là, c'est peut-être un peu tôt.
À 17 ans, oui.
Ici, il y a l'équivalent, ça serait la théorie du savoir, theory of knowledge ou quelque chose comme ça.
C'est une secte, ça, non?
C'est une secte. Je connais les déchets avec la secte.
Mais en parlant donc de matière, j'aurais voulu passer. J'ai trouvé un texte de M. Ruggieri qui cite quelques vers de Baudelaire, mais il le dit d'une manière tellement belle et
encore
sensuelle.
Mieux que Baudelaire.
C'est, tu parlais de gentillesse, mais je crois que les femmes sont très touchées aussi par la voix. Des hommes. Mmh. On peut séduire une femme par la voix, je pense, beaucoup.
Et si je gratte ma barbe de 3 jours contre le micro, ça le fait ?
Ah, je peux faire pareil. Tiens.
Je parlais de la voix.
Non, mais elle réagit au son, elle réagit pas au son.
J'aurais réagi à la voix.
C'est qui ? Serge Reggiani ?
Oui, c'est un ancien acteur-chanteur français.
Très bien.
Tu connais pas Serge Reggiani ?
D'origine italienne.
Oh, t'es vraiment
j'en ai entendu parler.
Tu reconnaîtras sa voix.
C'est une carte postale des vacances. J'y retourne, il reste 2 jours. C'est un peu excessif, mais je les comprends. Parce que quand, à la poste, c'est les spécialistes de la queue qui n'avance pas.
Mais c'est pas Serge Reggiani, ça.
Si, mais c'est ses premiers tubes, il était énervé.
Ah bon?
C'était dans sa face punk.
Mais elle, c'est pas Serge Reggiani.
Bon, on n'aime pas Danny Boone. On a une politique anti-Danny Boone dans cette émission.
Ouais, Romain, il a une dent contre Danny Boone. Hein?
Je me fatigue.
Alors, on va écouter Serge Reggiani cette
fois. Avec 2G.
C'est ce que je pense vraiment.
Je n'entends plus la guitare.
Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie? Ou de vertu? À votre guise. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans trêve de vin, de poésie, d'amour ou de vertu à votre guise. J'aime beaucoup ça.
Bon ben Reggiani, sous Prozac, hein,
il s'est endormi.
Il s'est endormi.
Je pense qu'on va remettre Danny Boone parce que c'est quelque
mais l'idée c'est une séance d'hypnose collective.
On parlait qu'à l'école, en fait.
Alors ce soir, toi, tu fais vraiment cousin de province. Il faut vraiment que t'arrêtes. Continue.
Donc,
Vous voyez, moi.
Mettez-vous du côté de la grammaire.
Voilà. Alors à l'école, en années 7 et 8, ce qui est l'équivalent de 6e, je crois. 6e, 5e, ouais. ils font un peu de méditation dans les écoles maintenant. Ouais, c'est la secte, Romain, comme tu disais. Méditation, non, ils appellent ça mindfulness et c'est très très bien. J'ai suivi des cours de mindfulness et je trouve ça c'est sympa, quoi.
Ouais, je pense que c'est bien pour les ados, pour un peu arriver à canaliser
et les petits,
toute l'énergie.
Tu penses?
Les petits, je sais pas, à l'école primaire, ils en font pas, mais...
Moi, ça fait des années que j'essaie de convaincre mon médecin de quartier que mes enfants sont hyperactifs pour qu'il leur prescrive des cachetons, et ça ne marche toujours pas. Mais c'est aussi efficace, les séances de... Est-ce qu'ils doivent porter une grande tunique de couleur? Comment ça marche?
Non.
Un chapeau pointu, des...
Non, mindfulness, je sais pas, à l'école. En primaire, ils font juste du yoga.
Ça s'y rattache, mindfulness, c'est vraiment prendre conscience du moment présent. C'est-à-dire de vraiment, comme pour le yoga, j'imagine, être vraiment dans le présent et ne pas se soucier de tout le reste. Et ça demande de la concentration, effectivement. Donc je pense que ça doit aider les enfants après dans leur apprentissage, de pouvoir vraiment être dans une chose et pas dans 10 000 choses à la fois, comme on a l'habitude aujourd'hui.
Et la respiration, on se concentre un peu sur la respiration aussi, hein? Dans mindfulness.
Oui, probablement. Parce que c'est vrai que ça régule.
Beaucoup d'exercices de respiration. Profonde, en fait.
Et ce sont des.
Et c'est bien
je pense que ça permet, effectivement, si on est dans une situation un peu stressante, d'avoir les moyens de se reprendre et puis d'être à fond dans ce qu'on fait. Et pour les enfants, effectivement, pourquoi pas? Parce que ça leur.
Il y a une similitude avec. L'école en France, en terminale, en année 13, les gamins ils sont aussi stressés en France qu'ici. Hein. Enfin, je veux dire, c'est les examens, ils ont par-dessus la tête, la pression des parents et tout ça.
Quand arrivent les notes ici? Parce qu'il y a une grande différence entre l'école néo-zélandaise et française, et aussi cette impossibilité faite aux professeurs ici d'émettre un avis négatif sur les enfants, ce qui rend parfois la lecture du bulletin scolaire assez compliquée, oui. Puisque il faut déchiffrer dans cette jungle de compliments et de ce qui pourrait donner lieu à des progrès, un travail supplémentaire, c'est assez difficile.
Il faut décoder, en fait.
Qu'en primaire, il n'y a pas de notes. Hein. C'est tout à l'appréciation et les bulletins, c'est un peu dur à déchiffrer. Ouais.
Bah, c'est une technique. Hein, une technique... Les profs suivent une ligne de conduite pour faire les bulletins.
Ils n'ont pas le droit d'émettre un avis négatif sur les enfants.
Non, mais c'est pas plus mal, en fait.
Ah, moi, je suis absolument ravi de l'école.
C'est une directive ou c'est...
Oui,
c'est une directive.
Je le tiens d'un...
Moi, j'ai été enseignant et les premiers bulletins que j'ai faits, ils m'ont dit, attends, il n'y a pas en France ici. Hein.
Ouais.
Donc, il n'y a pas peu mieux faire, n'écoute rien ou...
Dissiper, évaporer.
Par exemple, n'écoute rien, ça se transformerait en apprends à écouter, tu vois.
Ouais.
C'est un peu ça, l'idée.
Ouais.
Et très ouvert sur le monde extérieur.
Voilà. Aime bien socialiser en classe. non, mais c'est vrai qu'ils évitent de mettre des choses déplaisantes sur les bulletins. Ils essayent d'encourager les élèves. Et c'est une bonne chose.
Ah oui, moi je pense que c'est bien. Hein.
Et il y a d'autres choses qui sont intéressantes dans les écoles, c'est que en Nouvelle-Zélande, dans certaines écoles, les élèves donnent un retour sur leur prof. Et le retour, il va directement au directeur. Et si le prof fait pas l'affaire, ils l'envoient en formation et il y a un rendez-vous avec le directeur et disent ah, les élèves.
Les élèves de quel âge ?
Les enseignants sont évalués.
Pas...
En France aussi, ils sont évalués, les enseignants.
Pas par les élèves.
Ah, c'est par les élèves. Pardon.
Non, par les élèves, bien sûr.
Bah, par les élèves.
Bah, pourquoi pas.
À partir de quel âge ?
C'est logique, non ? À partir de. Ça dépend. Ça dépend des écoles, surtout. Ouais. Les écoles privées, ça rigole pas, quoi.
C'est.
Si les parents payent, il faut bien avoir des bons profs. Puis si les élèves sont pas contents du prof, les profs sont pas fonctionnaires en Nouvelle-Zélande.
Mais un élève peut aimer ou pas aimer son prof, mais moi, ils sont petits, les miens, mais ils ont peut-être pas non plus l'appréciation, le recul qu'il faut pour savoir si un prof est bon ou mauvais.
Non, mais si t'as 25 élèves qui disent la même chose sur le prof, t'as pas besoin d'avoir recul ou pas recul, quoi. Si le prof, il fait pas l'affaire, il change de prof. Et c'est très bien. Et en France, ça devrait être le même système, parce que les fonctionnaires... fonctionnaire, ça veut dire que t'as passé le CAPES, tu t'es super doué pour passer le CAPES, t'as eu des bonnes notes, donc t'as eu le diplôme, mais ça fait pas de toi un bon prof.
Si t'es un ado, t'es dissipé, et les gamins ont pas envie de bosser, le prof les fait bosser, c'est facile de...
Oui, n'est-ce pas la porte ouverte à la chienlit communiste?
Ça, je sais pas.
À l'anarchie.
Ce qui est intéressant, c'est que les bons profs motivent leurs élèves. Et les élèves sont pas dissipés en classe si le prof est bon. Si le prof est intéressant, ça veut dire qu'il engage les élèves à faire des choses intéressantes et les élèves bavardent pas.
Certes, tout n'est pas intéressant pour apprendre. Il faut aussi scoltiner du par cœur des choses un peu répétitives pour qu'un jour elles deviennent intéressantes. La grammaire, apprendre des choses par cœur, c'est pas folichon, tu vois.
Alors, est-ce que toi, dans ton école, tu as assisté à ça, des profs qui ont dû, sont fait évaluer,
qui sont fait virer par des gens de 3 ans et demi.
Ils se sont pas fait virer, mais en gros, après, dans ces enseignants qui sont dans des emplois fixes, qui en général sont les bons enseignants qu'on garde et qui restent. Mais c'est vrai qu'il y a des enseignants, moi, que j'ai vu, ils ont fait un an dans l'école et après, ils n'ont pas été gardés.
Et ce qui est intéressant, il y a un site, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est les élèves qui notent leurs profs. Donc ça, c'est très intéressant. Les élèves sont honnêtes. Hein. Chaque prof peut regarder ce que les élèves pensent de lui ou d'elle. Et en général, c'est très honnête. Hein.
Mais après, le professeur, il va peut-être pas oser non plus être honnête envers eux pour de peur de se faire. Si l'élève est mauvais, il peut plus le dire parce qu'il sait que l'élève peut se retourner contre lui. Enfin, des abus, non ?
C'est pas vraiment comme ça.
Non.
En tout cas, il y a une majeure partie des profs qui ignorent ce site et pour des raisons qui leur appartiennent. Mais le site existe et c'est très intéressant. Moi, je sais que si je retournais en tant que prof, je le regarderais, le site. Puisque les élèves donnent leur avis. Et en général, ils sont honnêtes. Hein. Si le prof est bon, ils le disent. Hein. Donc, moi, je trouve ça très bien. Ça devrait être en France aussi. Mmh. Bien sûr. Ouais. Hein ? Fonctionnaire en France. Fonctionnaire,
les profs. Puisque je t'aime beaucoup, Yvan, décidément beaucoup. Et je vais passer du Serge Reggiani encore. Cette fois-ci en musique, ça s'appelle Ma Liberté.
Ok, allez, on y va.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Juliette.
A-t-on essoré ce sujet? Est-ce qu'on en a extrait tout le suc? Ou alors il y a des choses à dire, des passages secrets, des pièces dérobées, non?
Parce que tu es dans l'administration, donc tu dois en voir des belles et pas mieux. Est-ce que les parents sont toujours avec toi?
T'es fonctionnaire?
Je suis employé par le ministère de l'Éducation. Ouais.
Néo-Zélandais.
Ah.
Fonctionnaire.
Ça va. Il en faut.
L'emploi à vie.
Ouais. C'est ça.
Mais dans ton travail, est-ce que tu es en interface donc avec...
Interface, mais comment tu...
Avec les parents, non? En relation directe avec les parents?
Vérifiez votre grammaire, s'il vous plaît.
Non, mais là, c'est trop qu'on se prend dans la revue de marketing.
En direct avec les parents
Oui, parce que... En fait, c'est vraiment différent l'administratif dans les écoles par rapport... à la France, c'est-à-dire qu'on s'occupe de non seulement des inscriptions qui en France se font en mairie, pas directement dans l'école, mais on prend tous les paiements pour toutes les sorties de tous les enfants toute l'année, dès qu'il y a un barbecue pour collecter des fonds pour l'école, on s'y colle.
Ça, pour moi, c'est nouveau. C'est tout la collecte de fonds, justement, parce qu'en France, on n'a pas vraiment ce système-là, où les parents font beaucoup de choses, effectivement.
Même mettre la main à la pâte, ça s'implique. Il y a encore une véritable mentalité de pionnier. Tout le monde doit participer.
Oui. Souvent, les parents, ils sont tout le temps sollicités pour organiser, essayer de collecter des fonds pour l'école, parce que...
Ouais. C'est même pénible. Hein. Moi, je trouve, dans les écoles, en tant que parent d'élève, l'école qui est censée être gratuite, elle n'est pas du tout gratuite. Il faut payer l'uniforme, il faut payer les fournitures
scolaires.
Hein,
les donations. Ah ouais, une donation, ça c'est rigolo par rapport à la donation. C'est qu'en fait, ce n'est pas du tout une donation. Quoi.
Juridiquement, légalement, ça l'est. Tu n'es pas forcé de la payer.
Tu peux déduire des impôts.
On n'est pas forcé de la payer, mais nous, on a reçu trois lettres de rappel qu'on n'avait pas payé la donation. Moi, je l'aurais écrit, mais c'est une donation. Pourquoi vous m'envoyez des rappels?
Ils le font, ça, dans toutes les écoles. Des rappels.
Ben ça, c'est inadmissible.
C'est du harcèlement.
Donc, c'est toi qui envoies les lettres?
Non, c'est pas moi qui envoie les lettres, c'est ma...
Il faut que tu apprennes à mieux gérer la culpabilité.
Non, mais je comprends.
Ben, en tant qu'admis...
Non, mais je comprends, parce que quand je donne les dossiers d'inscription et donc je parle justement des frais scolaires et de la donation, c'est vrai que j'insiste pas, j'explique que... Il y a les frais scolaires, et ça, il faut les payer avant que l'enfant puisse commencer l'école, c'est-à-dire les fournitures, s'ils vont à la piscine, il faut payer d'avance, les activités, il y a un coût pour faire les photocopies, enfin, il y a plusieurs choses, mais la donation, je dis après, c'est à votre...
Et il faut même payer des frais d'examen, NCA par examen. Ils font payer les frais d'inscription aux examens, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que c'est totalement C'est réservé aux riches, pratiquement. Quoi.
Ouais.
Enfin, aux gens qui sont aisés.
J'imagine que dans les écoles, là, au clan de Sud, là où il y a vraiment beaucoup de pauvreté, j'imagine que là, je pense que là, ça doit marcher autrement que dans d'autres écoles.
Ouais, j'espère. C'est vrai que moi, j'ai...
Et en France, tu le payes aussi, mais pas par le biais des impôts.
Ah oui, non.
Indirectement.
Oui, non, bien sûr.
Ouais.
Mais ce qui est bien en Nouvelle-Zélande, je trouve, pour les élèves, ils appellent ça les camps. Donc comment ça s'appelle en français, je m'en rappelle plus.
Séjours.
Les excursions.
Les colonies de excursions. Vacances.
Alors ça, quand on parle des profs, des fonctionnaires en France.
Oh là, ils s'en battent. T'as vu un peu cette montée, il a monté de 3
degrés. Ah, là, qui est le point levé, là. Oh.
Bah oui, moi j'étais prof en France et en Nouvelle-Zélande, donc je connais.
Alors qu'est-ce qui se passe dans les camps?
Je connais un peu le système. C'est qu'en Nouvelle-Zélande, ils demandent aux profs de prendre une semaine pendant les vacances pour aller au camp avec les élèves. Et il y en a qui râlent, mais moi en fait je trouvais que c'était une super opportunité
de se rapprocher
des élèves dans des circonstances complètement différentes, des activités sportives, c'est super intéressant.
C'est comme la classe de neige ou
voilà, c'est
la nature. Mmh. Ouais,
et en plus, quand t'es marié et que t'as des enfants, c'est presque des vacances pour toi aussi. Hein? Si, bah, pour moi c'était des vacances. Donc je préférais aller.
Et pour eux donc.
Et en fait, c'est vrai que c'est dans les camps, souvent, soit dans le bush, soit près de la mer, soit à la montagne. Et c'est là où l'esprit, on voit l'esprit kiwi en fait, très nature et. Ils aiment bien se pousser un peu, faire des longues marches, là, le tramping et tout ça. Marche de 8 heures.
Bah non, je n'ai jamais embrassé cette culture-là.
Pas pour les gamins qui ont 4-5 ans.
Mais effectivement, il y a des séjours de survie, entre guillemets, qui ont l'air d'être assez intéressants.
Mais ça, c'est super.
Le pays s'y prête complètement. Ouais.
Et c'est vrai qu'on demande, dans les écoles en Nouvelle-Zélande, on demande aux profs beaucoup de choses, de rester après l'école pour faire des activités, de venir le week-end pour faire des activités. Et ça fait partie de la description du poste. Hein. Mmh. Tu peux pas l'éviter quand t'es
Donc
prof
aussi,
en Nouvelle-Zélande.
Donc toi, tu te retrouves à faire des choses en plus ou
comme tu es.
Ouais.
S'il y a besoin pour une sortie, je me suis déjà apportée volontaire, aller au musée ou quelque chose comme ça. Mais après, pour les camps, je pense que c'est vraiment les enseignants et les parents qui sont sollicités pour venir aider les enseignants aussi.
C'est bien les camps. Enfin, moi, j'ai une très bonne expérience des camps.
En primaire, ils en font, c'est juste quelques jours. Et je sais qu'à Freeman's Bay, parce qu'on est une école qui est dans le centre-ville d'Auckland, en fait, on a beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger et d'enfants qui ne sont pas nés en Nouvelle-Zélande. Et on se rend compte avec les camps, en fait, que y a beaucoup de parents, de familles et de cultures qui disent non, qui ne veulent pas envoyer leurs enfants parce qu'ils ne veulent pas que leur fille de 9 ans dorme dans un dortoir avec d'autres enfants. C'est quelque chose
en France ou ici?
Non, ici.
Ici aussi.
Ouais. Ici, il y a beaucoup de familles qui s'opposent à envoyer leurs enfants au camp.
Je trouve ça un peu.
On a beaucoup de familles qui viennent d'Inde, d'Asie, et c'est vrai que ces familles-là, elles s'y opposent en général.
Bah, c'est dommage pour leurs gamins parce que les camps en général sont très bien organisés. Il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de. Tout est bien géré. Hein.
Souvent, les enfants sont déçus de ne pas pouvoir y aller, mais c'est un problème qu'on rencontre dans notre école.
Ah ouais, ça ne m'étonne pas. Mmh.
Bon, avant d'écouter le sujet de ce soir, qui sont les fêtes et les coutumes du 24 septembre.
Exactement.
T'as mouillé la chemise, bravo.
J'ai mouillé la chemise. Non, mais je me disais, on est à 24 septembre. Est-ce que c'est une date qui aurait pu marquer l'histoire, quelle que soit, parce que finalement, 24 septembre, 24 septembre. Mais en fait, il y a quand même des choses importantes.
Je voulais passer de la musique d'abord.
Bon, alors on va passer à la musique avant.
Tu voulais. Je passe la musique tout de suite. Point de transition.
Qu'est-ce qu'on écoute, Romain?
Papa Charlie Tango.
debout, je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes.
Allô, papa, tango, Charlie. Allô, papa, tango, Charlie. Répondez-nous, vous cherchons. J'ai perdu celle que j'aimais, ne la retrouverai jamais. Je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes.
Allô, papa, tango, Charlie. Allô, papa, tango, Charlie. Répondez-nous, vous cherchons.
Je me moque de tout, je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes.
Allô, papa, tango, Charlie. Allô, papa, tango, Charlie. Répondez-nous, vous cherchons. Allô, papa, tango, Charlie.
C'est à la fois une drogue dure et un aphrodisiaque, cette chanson. Elle est très très étrange.
Là, Serge Reggiani, là, il speed un peu quand même.
Mais c'est pas Serge Reggiani, touriste, c'est Mort Schumann.
Mort Schumann, Mort Schumann. Et une chanson qui vient de sortir d'ailleurs.
Non, non, c'est. Année 1972. Donc, on voulait juste. J'en ai vraiment marre des écoles. Mais on voulait ajouter quelque chose avant de passer au 24 septembre qui m'intéresse infiniment mieux. Je veux parler des lunchboxes.
Ouais. Ah, des lunchboxes. Vas-y, c'est vrai.
C'est une grande différence.
Voilà, en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de cantine. Donc, tous les enfants viennent à l'école, enfin, la plupart des enfants, avec une lunchbox que les parents sont obligés de préparer la veille s'ils sont courageux ou le matin s'ils sont
en galère. On sent un peu la frustration dans ta voix là.
T'as pas eu des parents qui horrible les lunchbox. Franchement, je suis contre, je trouve ça nul. Déjà, j'aime pas du tout le concept parce que
c'est marrant parce qu'on avait invité cette jeune personne un peu effacée. Et regarde, c'est militante.
Franchement, je suis anti lunchbox. Je parle de la cantine tout le temps à l'école, je les saoule, je leur dis à quel point c'est bien.
T'as pas eu des parents qui ont demandé à avoir une cantine?
Non, c'est, une cantine, c'est, parce que c'est pas dans la culture néo-zélandaise.
Non, mais c'est une question de coût aussi.
Oui, non,
parce que
ça,
la cantine est payée
ça,
par les impôts.
Oui, 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 non, ça je comprends tout à fait. Mais moi, franchement, ça me fait mal au cœur de voir des enfants de 5 ans.
Moi, je trouverais normal tout... de payer dans mes impôts.
Non, mais
tous les jours, manger par terre, assis.
5 minutes.
Assis
comme des animaux.
Non, mais c'est vrai, non, mais ils leur font manger dehors parce qu'ils ne veulent pas salir la moquette des classes. Oui. Ils mangent dehors, en hiver. Ils se
perdent. Des repas froids.
Puis, voilà, des repas froids qui
triste.
Sont...
Et,
mais des fois, ils mettent des bonnes choses. Il y a des bonbons.
Non, mais ils mangent pas.
Oui, mais quand même, ça vaut pas un repas chaud. Enfin, les cantines françaises, on a beau critiquer, mais c'est quand même...
C'est un apprentissage aussi.
Et puis, c'est...
Ouais, moi, j'ai toujours entendu dire que le repas froid était stimulant pour l'intellect.
Ouais, ben, c'est le repas froid.
Mais des fois, ils font des efforts dans certaines écoles.
Par exemple, j'ai mangé
des fries et tout comme ça, quoi.
Non, ce qu'on va faire, on va faire comme au resto, on va se faire deux conversations parallèles.
Voilà, on va faire ça. Alors, c'est vrai, non. Écoutez-moi.
Donc, Else, continue avec ma chaîne, là. Non, on n'a pas beaucoup de temps. Hey, 24 septembre.
Le 24 septembre.
Else. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec Séverine. C'est bon. On est obligé de s'y faire.
Comment elle fait ça?
C'est parce que en général.
On peut dire ça, je suis d'accord avec toi.
On en reparlera.
En général, c'est les mamans qui préparent des lunchbox. Pas trop les papas, en fait. Ouais. Tu prépares un lunchbox, toi, pour tes enfants?
Ouais, ça fait partie de mes devoirs conjugaux. On dit ça?
Ah, j'ai quoi dans la lunchbox de vos enfants?
Des chips, des bonbons, quoi.
Ah, des chips. C'est vrai qu'il y a des chips, hein. En général,
on est loin des repas équilibrés des cantines françaises.
Et mes enfants sont si gros, ils développent, tu sais, à la Inuit, une couverture de gras qui les protège du froid. Ils sont tout à fait
donc
contents.
Ils peuvent manger dehors.
Voilà. Problème résolu.
Avec les chips, des fois il y a une banane, il y a des pommes, il y a du jus de fruits. Et il y a des bonnes choses. Ça dépend des parents.
Dans les détails, on sait du 24 septembre.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, en tant que prof, j'ai vu les gamins à l'école jeter ce qu'ils avaient dans la lunchbox, manger que les sucreries et jeter les bons sandwichs que les parents ont préparés.
Voilà. Mon fils fait ça.
Ça, c'est quand même.
Donc, dans la cour des écoles, il y a plein de pigeons.
Non, mais il y a des choses à changer quand même dans ce pays.
Voilà, le 24 septembre.
Le 24 septembre, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Non, enfin, je pense pas.
Bah, si, moi je peux te dire quelque chose. Hein.
Non, mais changement d'heure en Nouvelle-Zélande.
Premier siècle.
L'émission la plus médiocre d'Amuse-Gueule.
Premier siècle. Non, bien, c'est la mort de Pépin le Bref, le père de Charlemagne. Et donc le royaume des Francs est partagé entre les deux fils. Donc,
Attends.
Il y en a deux. Bref, on a eu deux.
Charles Chauve.
Non, alors Carloman et Charlemagne. Charlemagne est le fils de Pépin le Bref. Dans la chanson, d'ailleurs, on le mentionne à un moment donné.
Quelle chanson?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école.
Sheila.
Non, je crois que c'est Dalida.
Non, c'est la première.
Dalida,
c'est la...
Ça.
Ah bon?
je pourrais pas vous dire.
Non, là, c'est la première fois que quelqu'un cite Sheila d'un ton inspiré.
Bah, Sheila, en fait.
Sans le petit pli à la commission d'élèves, sans un soupçon d'ironie.
Cool.
Bon, genre, ce soir, j'ai cité Sheila, quoi. J'en leur ai mis plein la vue.
Les rois mages.
Grâce à Charlemagne. Au 19e siècle, la Nouvelle-Calédonie devient une colonie française. Un 24 septembre. Et d'ailleurs, c'est en 1853. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, c'est la fête de la citoyenneté. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est la fête de la citoyenneté. C'est la naissance de l'écrivain américain Francis Scott Fitzgerald. On peut mentionner quand même ça.
Non, c'est intéressant.
Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est la naissance.
Quelle année
pour Monsieur Fitzgerald en 1896, fin 19e. Naissance de Pedro Almodovar.
Espagnol, lui.
Et qui est espagnol, ouais. En 1952, disparition du sous-marin français Sibylle avec 48 passagers qui ne seront pas retrouvés. Alors, il faudrait plonger dans les archives pour en savoir plus.
Yvan est toujours amateur de théorie du complot, nous dirait qu'ils sont encore vivants.
Ah ben ça, je ne sais pas s'ils sont encore vivants, je ne suis pas penché dessus, mais on peut se pencher dessus. Hein.
Bon, dans les choses, en 1966, l'explosion de la première bombe atomique française dopée sur l'atoll de Fanga Taofa, en Polynésie.
Cocorico.
Voilà, Greenpeace. Ils s'en rappellent les Néo-Zélandais de Greenpeace, je crois. Ouais. C'est la première chose qu'on m'a dit en Nouvelle-Zélande quand je suis atterri.
Ces empêcheurs de tourner.
Moi, je suis allée visiter le Rainbow Warrior sous l'eau. En 2000, les Français disent oui à 73% au référendum proposant de ramener le mandat présidentiel de 7 à 5 ans, mais avec un taux de participation de 30% seulement.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, c'est combien de temps ?
Trois ans.
T'as le temps de rien faire. Déjà, aux États-Unis, t'as le temps de rien
faire. Aujourd'hui, c'était le résultat de l'élection. Alors, pour les gens qui que ça intéresse, on garde les mêmes.
Alors, pour moi qui suis ici depuis pas très longtemps, j'étais sidérée de voir des lieux de vote, donc dans les supermarchés.
C'est
étonnant. Mmh. C'est très étonnant.
Même à la gym. Moi, je suis allé à la gym, on dit « tu veux pas voter ?» J'ai dit « non, j'ai déjà voté. » à côté de la bibliothèque, mais c'est vrai, c'est vrai. Et en plus c'était deux trois semaines avant, les gens pouvaient voter comme ça, les gens évitent le rush, évitent de faire la queue comme en France par exemple.
Oui, mais il faut surveiller comme en France, tu as un endroit, tu es sur une liste et puis c'est une journée, enfin c'est très
Yvan, peux-tu t'imaginer une seule seconde que le sujet d'Els m'intéresse et que j'aimerais en connaître plus sur le 24 septembre.
C'est vrai. Continue ta liste.
Mais ça en faisait partie.
Il nous reste 2 minutes.
Ben, en 2015, c'était... Alors,
Fais des phrases longues.
Ça se rapproche de nous. Une grande bousculade au pèlerinage de la Mecque qui fera 769 morts. Je ne sais pas si vous en souvenez, il n'y a pas longtemps. Et donc ça, c'était le bilan officiel d'Arabie Saoudite. Et plus de 2200 morts selon les médias internationaux. C'est quand même une différence. Et plus proche de nous, en 2017, donc aujourd'hui...
L'émission la plus médiocre d'Amuse-Gueule de tous les temps.
Mais aujourd'hui, c'est la journée spéciale des primes, on a dit.
Des primes ?
C'est l'heure de décalage qui nous perturbe. Enfin, moi, qui me perturbe beaucoup.
On a décalé.
C'est pour ça.
Il y avait un buzz
bizarre, là. Ouais. Non, c'est parce que je n'étais pas prêt. Normalement, je suis dans ma voiture, j'arrive, je répète mes vannes.
Exactement.
Tu m'as pris au pied du lit, là.
Donc, aujourd'hui, les élections allemandes.
En Allemagne aussi.
Eh oui. Et donc, je pense que Angela Merkel est bien partie pour durer.
Je crois qu'elle a 15 points d'avance sur son...
Ça fait déjà 13 ans, je crois, qu'elle est au pouvoir. Elle a connu 4 présidents français. Et donc, la stabilité, c'est une marque allemande aussi.
Hallucinant.
Donc, voilà.
Tu n'es pas allemande, Ems ?
Je suis néerlandaise.
C'est la même chose.
C'est la même différence entre australien et néo-zélandais. En fait, tu peux faire les mêmes comparaisons entre les pays.
Vous voyez une différence, mais avec un peu de distance, tu vois, 3-4 km, c'est la même chose.
Même pas 3-4 km, hein, c'est frontière commune.
Ouais. Une dernière date
Non. Si ça vous dit, mais c'est la journée mondiale contre les brevets logiciels.
C'est dommage qu'on rate ça.
C'est vrai.
Mais je comprends même pas ce que ça veut dire. Contre les brevets logiciels, on doit
laisse le sujet ouvert, taper sur Google et rechercher. On va se quitter bientôt parce que là.
On va se quitter.
En musique.
Quoi le contrat de à regret ? On se quitte.
Volontiers.
Volontiers.
Merci vous qui êtes chez vous, bien au chaud, près du feu. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Merci beaucoup à Séverine qui a fait ses premiers pas. Réussi à la radio. Merci Else, merci Yvan. À la semaine prochaine.
Bonsoir.
À très, 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 très. Oh, 8 secondes de très. Très, 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 très.
Vague de chaleur.
Bientôt.
Demain.
Allez,
vague de chaleur.
C'est parti. À la semaine prochaine.